Deutsche Welle. Carrefour Europe.
Bonjour, le président français François Hollande a de nouveau jeté un pavé dans la mare cette semaine au Parlement européen de Strasbourg. Nous y revenons dans un instant. Et puis, nous verrons aussi qu'au beau milieu des discussions sur le budget européen, c'est l'aide alimentaire qui fait les frais de l'austérité ambiante. Enfin, nous irons en Slovaquie sur les traces d'un criminel de guerre nazi qui, à 97 ans, a été rattrapé par son passé, accusé d'avoir organisé la déportation et la mort de dizaines de milliers de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Vous écoutez Carrefour Europe, le magazine européen de la rédaction francophone de la Deutsche Welle. Et nous sommes ensemble pour un petit quart d'heure. Lors de sa visite au Parlement européen à Strasbourg, le président François Hollande a donc insisté sur plusieurs points essentiels qui soulignent les divisions européennes sur un certain nombre de dossiers. Il a d'abord évoqué la guerre au Mali. Comment aurait-il pu ne pas le faire ? Il a rappelé que la France est bien seule dans cette intervention militaire et que sur ce point, l'Europe de la défense était encore une vue de l'esprit, un projet repoussé aux calendes car trop compliqué à faire accepter par tous. D'ailleurs, François Hollande a fait preuve d'un manque de mémoire, ou du moins d'une mémoire sélective, puisque c'est la France qui, en 1954, a tué dans l'œuf le projet de communauté européenne de la défense, un échec qui eut des conséquences décisives, puisque c'est à sa suite que les pères fondateurs de l'Europe ont décidé de faire l'Europe sur l'économie, un domaine dans lequel il était plus facile de trouver des terrains d'entente entre les États. Et pourtant, aujourd'hui, c'est sur l'économie que ces mêmes États ont des vues divergentes, car la création d'une monnaie unique, l'euro, est allée trop vite. Elle s'est faite sans une coordination des politiques fiscales et budgétaires. Elle s'est bâtie sur un principe sacro-saint défendu par l'Allemagne, l'indépendance de la Banque Centrale Européenne et de sa politique monétaire, qui repose essentiellement sur le contrôle de l'inflation par le biais des taux d'intérêt. Or, aujourd'hui, l'euro décolle par rapport au dollar ou par rapport au yen japonais. Il atteint des niveaux records proches de 1,35 $, car la zone euro attire de nouveau les investisseurs. Mais le problème est que cet euro fort pèse sur les entreprises qui exportent et risquent par conséquent de compromettre la reprise économique encore fragile de certains pays. C'est ce second point que le président français François Hollande a souligné à Strasbourg en critiquant l'innocence des Européens qui laissent évaluer leur monnaie uniquement par les lois du marché alors que les banques centrales américaines et japonaises interviennent massivement pour en contrôler la valeur. L'Allemagne refuse d'entendre parler de toute influence politique sur la Banque Centrale Européenne. Berlin l'a de nouveau fait savoir. Et cette nouvelle saillie de Paris ne fait finalement qu'accroître les différences qui persistent depuis des mois entre Paris et Berlin. Et nous poursuivons désormais avec un autre sujet qui reste lié à l'actualité. Le débat difficile sur le futur budget européen pour les années 2014-2020. Les réductions annoncées pourraient faire une victime collatérale, l'aide alimentaire européenne. Une aide non pas pour les pays pauvres, mais une aide pour les pauvres dans les pays européens. Une aide qui permet aux associations de nourrir chaque année des dizaines de millions d'Européens. Un collectif d'associations et d'ONG qui réunit les Restos du Cœur en France, la Deutsche Tafel en Allemagne ou encore la Croix-Rouge vient de tirer la sonnette d'alarme. On écoute sur ce point Olivier Berthe, il est président des Restos du Cœur en France.
Alors aujourd'hui, cette aide alimentaire européenne, elle permet dans 20 États sur les 27 de l'Union de nourrir 18 millions d'Européens pauvres, d'Européens démunis. En France, pour faire le zoom sur le pays où les Restos du Cœur exercent, eh bien, cela représente par exemple entre le quart et la moitié des ressources des associations qui font de l'aide alimentaire. Et on peut considérer que avec 500 millions d'euros par an, cette aide permet effectivement à 18 millions d'Européens de manger à leur faim.
Une aide qui pourrait être considérablement réduite, puisqu'on parle de la faire passer de 480 millions à 113 millions, en gros, donc vous n'auriez quasiment plus rien. Il y a un certain nombre d'associations qui se mobilisent en Europe, pas simplement en France, mais également en Allemagne.
Absolument, la mobilisation est européenne. Il y a des réseaux européens, notamment le réseau des banques alimentaires présent dans pratiquement tous les pays. Il y a également le réseau Caritas qui s'est mobilisé. Et en Allemagne, l'association TAFUN soutient l'action des autres associations. D'ailleurs, il y a 15 jours, le président du Parlement européen, Martin Schulz, a reçu les quatre associations françaises à la pointe de ce combat, en même temps que DITAFUN qui s'était associé à cette réunion. Et donc, c'est bien l'ensemble des associations françaises et allemandes qui ont pu évoquer leurs craintes de disparition ou de réduction drastique des moyens qui vont être donnés à l'aide alimentaire.
En effet, il y a une mobilisation du président du Parlement européen, Martin Schulz, qui est allemand. Ce n'est pas un hasard parce que parmi les pays qui sont contre cette aide alimentaire européenne, il y a l'Allemagne. Il y a d'autres pays aussi comme le Royaume-Uni, la Suède, l'Autriche et d'autres. Pour bien comprendre finalement quel est le cadre du dossier, est-ce qu'on a finalement une réduction qui est annoncée parce que simplement c'est l'austérité, ça touche aussi l'Europe, ou est-ce qu'il y a une volonté politique de ne pas soutenir ce type d'assistanat?
Il y a une volonté politique des sept États qui pour l'instant sont réfractaires de ne plus soutenir ce type d'aide qui n'est pas un assistanat puisque l'aide alimentaire dans tous les États où elle est pratiquée est une porte d'entrée à l'inclusion sociale, à l'aide à l'insertion des populations aidées. Et donc effectivement, on a pu constater que les États les plus réfractaires pense qu'il s'agit d'une question intérieure et pas d'une question européenne. Nous sommes persuadés du contraire et d'ailleurs, quand on en parle avec les associations, y compris de ces États les plus réfractaires, on se rend compte que ces associations aimeraient bien pouvoir disposer de l'aide, même quand leur État ont choisi volontairement de ne pas adhérer au programme, parce que le fossé qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres se creuse partout, y compris en Allemagne d'ailleurs, où le taux de pauvreté qui est de 15% et même supérieur au taux de pauvreté français qui est de 13%. Donc il n'y a pas d'État épargné par la crise, il n'y a pas d'État épargné par la pauvreté. Tous les États pourraient utilement utiliser ce programme.
C'était Olivier Berthe, le président des Restos du Cœur en France. L'arrestation de Laszlo Csatari cet été à Budapest, en Hongrie, a fait la une de la presse internationale. Âgé de 97 ans, il a déjà été condamné à mort par contumace pour avoir organisé la déportation de plus de 15 000 juifs de Košice, une ville rattachée à la Hongrie pendant la guerre, mais qui est aujourd'hui slovaque. Le sort réservé à Csatari par la justice hongroise est suivi de très près à Košice, notamment par ce qu'il reste de la communauté juive locale. C'est un reportage à Košice de Alexis Rosenzweig.
Une cérémonie organisée le mois dernier à l'occasion de la fête juive de Hanouka devant ce qui était la plus grande synagogue de Košice, transformée après-guerre en maison de la culture. Il n'y a qu'une cinquantaine de personnes présentes. Les juifs représentaient une importante minorité de la ville. C'était avant les déportations massives du printemps 44. Sur plus de 15 000, peu ont survécu et souhaité recommencer à vivre ici. Edita Chalamonova avait 19 ans à l'époque. Elle est une des rares survivantes, aujourd'hui encore à Košice.
Le 18 avril, des policiers hongrois sont venus me chercher avec ma famille et ils nous ont emmenés dans l'ancienne usine de briques de Košice. De là, nous avons été acheminés dans des wagons à bestiaux vers Auschwitz, où Mengele a fait le tri à la sortie du train. C'est la dernière fois que nous avons vu nos parents. En voyant la fumée épaisse sortir d'une cheminée, une femme m'a dit que c'était nos parents. C'était la fumée du crématorium.
En juillet dernier, des journalistes britanniques ont retrouvé l'homme responsable des déportations des Juifs de Košice. Il figurait en haut de la liste des criminels de guerre nazis dressée par le centre Simon Wiesenthal.
97-ročný Laszlo Csatari bol počas druhej svetovej vojny veliteľom zberného tábora v Košiciach. Do Osvienčimu mal poslať.
C'est en regardant la télévision qu'Edita Chalamonova a appris l'arrestation de Laszlo Csatari, longtemps caché au Canada avant de rentrer en Hongrie à la fin des années 90.
J'ai vu les images à la télévision, je l'ai vu gesticuler devant la caméra. Csatari a 97 ans et il a encore la belle vie même s'il est en résidence surveillée. Le revoir devant la justice ne nous avancera pas à grand-chose, mais je pense que ce qu'il est important de juger, ce sont aussi ses complices qui l'ont aidé à rentrer à Budapest et à mener une vie paisible avec une retraite et trois appartements différents.
Edita Shalamonova semble reconnaître Laszlo Csatari sur les photos de l'époque diffusées dans la presse, même si elle a du mal à se souvenir de ses traits près de 70 ans après les faits. Dans l'affaire Csatari, malgré l'insistance de la communauté internationale, les autorités hongroises sont accusées de traîner les pieds et de faire en sorte de ne pas régler assez rapidement les comptes avec le passé. Et 6 mois après sa découverte, le sort réservé à Csatari est suivi de près à Košice. Pour le président de la petite communauté juive de la ville, Pavol Sitar, il doit purger sa peine en Slovaquie.
Il a été condamné par contumace à la peine de mort en 1948 par un tribunal local. Il faut donc commuer cette peine en détention à perpétuité et qu'il soit extradé en Slovaquie, car les faits ont été commis ici. Un homme comme Csatari n'était pas un simple soldat qui recevait des ordres. De sa propre initiative, il a servi le régime fasciste hongrois en tant que policier et a participé activement pendant son séjour à Košice à la mise en œuvre de l'Holocauste.
Les avocats de Laszlo Csatari tentent de démontrer qu'il n'est pas l'officier qui commandait la police de Košice en charge de son ghetto et des déportations. Mais les enquêteurs slovaques ont indiqué fin décembre avoir trouvé un témoin clé qui pourrait l'identifier formellement. Sa mise en résidence surveillée a été prolongée à Budapest jusqu'au 18 février.
C'est la fin de Carrefour Europe. Merci à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous écoutez. Et prochain enregistrement avec Elisabeth Cadeau aux commandes. Il va falloir pour cela patienter encore une semaine. À très bientôt. My life, my life, my life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine, sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine, sunshine. Folks get down in the sunshine. They really love sunshine. Sunshine, sunshine.